toujours à la maison de Bégron, toujours sous Studio Def, et on espère que vous avez passé une très bonne nuit. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une grosse insomnie et vous êtes restés. Peut-être que certains d'entre vous se lèvent. Et peut-être que certains d'entre vous vont se coucher. À tous les travailleurs de la nuit, je tire mon chapeau. Bienvenue dans l'émission Le Fil Rouge. Aujourd'hui, je reçois Ambroise pour parler mythologie, contes, heroic fantasy, comment les croyances traditionnelles influencent la pop culture. Et pour vous présenter Ambroise, plutôt que de vous raconter la taille qu'il a, la couleur de ses yeux, son métier et son âge, je vais lui poser quelques questions en partant des quatre éléments, à savoir comment peut-il se présenter en tant qu'élément de feu, élément de terre, élément d'air ou élément d'eau. Bonjour Ambroise.
Bonjour.
Dis-moi, si tu étais un élément de feu, quel serais-tu et quelle est cette influence du feu dans ta vie ?
Oui, alors pour rebondir sur ce que tu disais, quand on se présente, on dit notre métier en général.
Non.
Mais sommes-nous ce que nous faisons ou sommes-nous autre chose ? Alors le feu, allez, je vais te parler du feu des arts martiaux. C'est une de mes passions, on y reviendra brièvement tout à l'heure. Ma mère aurait rêvé de faire du catch, elle n'a pas assouvi ce souhait. Mon grand-père, son père, faisait de la boxe entre copains, il aurait aimé en faire plus sérieusement en club, en compétition et tout ça. Bon, moi j'ai assouvi cette passion des arts martiaux, donc on va dire le feu des arts martiaux.
Si t'étais l'élémentaire.
La terre me fait instinctivement penser à la terre d'ici, puisque mes grands-parents étaient paysans, des deux côtés d'ailleurs. Il y avait du côté de mon père, ce sont des paysans de la Beauce, aux alentours de Blois. Donc la terre me fait penser à la terre du coin, hein. La Beauce et dans les parages, quoi.
Et si tu étais l'élément air ?
Alors, on a quelques gitans dans la famille aussi. Donc, les gitans voyagent, voilà. L'air, les voyages, la vie en caravane, c'est on va dire, c'est l'élément air. Il est là. Et les voyages aussi, avec mon père, j'ai beaucoup voyagé. On a fait New York, on a fait Tokyo, on a fait les îles grecques. On a fait pas mal de voyages. Donc, si l'air, c'est les déplacements, on va dire, ça va être les voyages en général.
Et pour finir, en tant qu'élément eau.
Alors l'eau, c'est quelque chose qui s'adapte et qui est souple. Ça, j'ai un caractère qui est un peu comme ça. L'eau, c'est la spiritualité. Tu sais, dans toutes les légendes, il y a toujours une eau miraculeuse ou il y a une eau magique. Un truc. C'est aussi la connaissance spirituelle, l'eau. Et le vampire, c'est celui qui a une soif qui n'a jamais de faim. Tu vois, le vampire n'arrive pas à être désaltéré. Et quand on n'a pas bu, on est altéré. Quand on a bu, on est désaltéré.
Oui, et altéré, j'espère bien que tu ne vas pas l'être, parce que j'ai vraiment envie de t'entendre nous parler de beaucoup de choses.
Non, c'est pour ça que je t'ai demandé un verre d'eau tout à l'heure.
Alors... Comme on va parler mythologie, contes, etc., comment tu t'étais intéressé à un moment donné dans ta vie et quelle place ça a pris, la mythologie ?
Alors, c'est venu très tôt. Alors, il y avait les Chevaliers de Zodiac qui passaient, quand j'étais petit, qui passaient à la télé. Ça, j'ai eu une passion pour ce dessin animé dès le premier épisode, en fait, tout de suite, puis c'est resté. Donc, ça, c'était... le début de la passion des mangas et autres. Et mon père, qui était médecin, passait beaucoup de son temps libre à étudier les symboles, les mythologies, l'astrologie, mais surtout l'astrologie par rapport aux symboles qu'il y a dans l'astrologie, et à tout ce qu'il pouvait étudier comme symbole au niveau chrétien, judaïque, musulman, païen... Mésopotamie, Asie, taoïsme, etc. Il a lu un peu tout ce qu'il a pu trouver là-dessus pour faire des études, des comparaisons. Donc il m'a transmis ça à très jeune et puis après j'ai continué à bouquiner aussi de mon côté.
Oui, donc toi-même, tu es un grand lecteur.
Oui, aussi, oui. Ouais.
Et tu parlais tout à l'heure des arts martiaux, ça a eu une influence aussi dans ton rapport à la mythologie, je crois.
Ah oui, exact, oui. Parce qu'il y a aussi l'apprentissage des symboles et de... puisque c'est les Kung Fu Shaolin que je pratique, et ils ont toute une tradition que j'apprends avec mon prof qui est à Amboise, et avec le prof de mon prof, dont il y a Gilles qui est à Amboise, et il y a Gilles Bernard, et il y a Shido Cheng qui est en Chine et qui vient nous voir de temps en temps, et qui est un maître Shaolin connu. Et c'est vrai qu'il y a aussi, ce travail-là avec les symboles bouddhistes qui vont être très souvent comparables à ce qu'on va avoir dans nos contes à nous. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais je ferai juste deux, trois comparatifs simples, parce que sinon on va partir dans des digressions un peu longues. Mais il y a beaucoup de points communs, oui, entre les mythologies d'Asie et d'Europe, il y a beaucoup de points communs.
Je t'ai demandé, nous avons sélectionné ensemble, en réalité, une série de musiques, et donc tu as choisi en premier Marilyn Manson. Est-ce que tu peux nous introduire ce que tu as choisi ?
Ah oui, alors quand j'étais plus petit, quand j'étais ado, j'avais tendance à dire que j'aimais pas la musique. Parce que autour de moi, alors j'entendais de la chanson française, c'était pas mon truc. Mes copains, ils écoutaient du rap, c'était pas mon truc non plus. Il y avait de la musique électronique à la télé, il y avait un peu tout ça, ça me disait rien. Et j'écoutais aussi des musiques de films ou des musiques de dessins animés, justement. Et jusqu'à ce que je découvre Marilyn Manson et son univers très, très bizarre, parce que les photos ressemblaient à des photos de films de science-fiction avec des personnages un peu androgynes, un peu étranges, et une sorte de film d'horreur de science-fiction, c'était très bizarre. Et puis il y avait cette voix que j'ai beaucoup aimée d'emblée, donc j'ai choisi un morceau où on entend bien sa voix. Ce n'est pas The Last Day on Earth qui est connu par les fans, où il a fait une version acoustique. C'est une autre version acoustique où on entend très bien sa voix, où il n'est pas en train de crier, en fait. Et même si c'est une technique très, très complexe de crier pour chanter du métal, mais là c'est une chanson qui est plutôt calme.
Donc nous allons écouter Working Class Hero de Marilyn Manson.
Your bone and make you feel small, giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. It's so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You keep it dope with religion, your sex and TV. Think you're so clever and classless and free. You're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. You wanna be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You wanna be a hero, then just follow me. Wanna be a hero, then just follow me.
Oui, à nous. Ambroise, donc, ton métier, c'est auteur de BD.
Ah oui.
Et si on est parti sur ce genre de musique, c'est aussi pour parler du fait que, quand tu crées, la musique a énormément d'importance. Et j'aimerais que tu nous parles du lien entre la création artistique et la musique.
Oui, alors quand on est tout petit, on a tendance à se baser énormément sur ce qu'on connaît déjà. Si on fait de la BD, on va imiter les autres BD ou les dessins animés ou les films. Et encore que les films, c'est déjà un peu différent. Mais en prenant un peu de maturité, on va s'inspirer de choses qui ne sont pas des BD ou pas des mangas pour créer de la bande dessinée. Alors la musique, oui, ça marche très bien parce que je ne suis pas le seul comme ça, je sais qu'il y a d'autres collègues qui font pareil, mais d'emblée, la musique me fait voir des images et me fait visualiser des histoires et me met dans des ambiances, dans des émotions où je vais pouvoir créer après des persos, des histoires. Ce qui fait que la plupart de mes personnages ont des musiques que je leur ai attitrées. Quand j'ai besoin de les dessiner, je vais mettre telle ou telle musique. Alors sur Marilyn Manson, c'était quelque chose d'assez global, puisque quand je l'ai découvert, après ça m'a ouvert l'ensemble des musiques rock et metal que je connais, donc ça m'a ouvert tout l'éventail après, en regardant quelques magazines et tout ça. J'ai pas de personnage qui est vraiment attitré à cette musique-là, mais disons que c'est un peu un ensemble. Et c'est plutôt l'esthétisme des pochettes d'albums et des photos ou même des mises en scène de concerts qui ont eu une influence, même un peu petite, mais une influence quand même sur le look de mes personnages, du moins ceux qui sont contemporains, pas tout ce qui se passe dans le passé, mais tous ceux qui sont contemporains, oui, ça m'a ouvert tout un éventail de looks et de choses plus ou moins dérivées du gothique ou du rock, etc.
La question que je voulais te poser aussi, c'est parce que bon, notre fil rouge, c'est quand même la mythologie, les contes, l'heroic fantasy. Comment tu ressens, toi, l'influence des traditions dans les musiques que tu peux utiliser?
Alors d'abord, sur Marilyn Manson, pour garder le même exemple, il met beaucoup de symbolisme, surtout dans les albums des années 90. Il y avait énormément de symbolisme. Je crois qu'une grande partie venait de son claviériste, qui était surnommé Pogo, d'ailleurs. Mais il met toujours un peu de symbole dedans et un peu de référence à des vieux textes. Donc, dans les textes, c'est quand même présent, dans les textes de ses chansons, puisque c'est quand même un chanteur à texte, mine de rien, et c'est un littéraire au départ, avant d'être un musicien. Et ensuite, les autres musiques, c'est soit les ambiances que vont amener la musique elle-même, soit dans les paroles, ça va aborder le sujet de légende ou de symbole, l'un ou l'autre, ou parfois, c'est simplement l'émotion va dégager la voix qui va m'inspirer pour créer, sans que ce soit directement lié à la mythologie.
Est-ce que le fait d'utiliser de la musique, ça s'est accentué au fur et à mesure de ta créativité, ou ça était vraiment tout de suite un facteur essentiel?
Non, c'était toujours là, sauf que avant, quand j'étais tout petit, c'était exclusivement les musiques de Saint Seiya ou de Conan le Barbare, ou de comment Indiana Jones, où j'aimais beaucoup tout ce qui était Basil Polidoris et John Williams et autres. Et puis après, j'ai un peu plus mis le doigt dessus, c'est-à-dire je l'ai un peu plus utilisé consciemment, plutôt que d'avoir juste la musique dans la tête à des moments, bah, j'avais les CD et puis j'utilisais les CD. Voilà. Mais c'est quand même un moyen de se mettre dans un état particulier émotionnellement qui va faire créer différemment que si jamais on part de manière imbrouillée. Disons qu'on peut contrôler et démarrer l'émotion un peu plus facilement que si jamais j'ai quelque chose à... Si j'ai quelque chose à dessiner qui doit être un peu mélancolique, mais qu'en fait je viens de rigoler, d'avoir un fou rire, et puis du coup je suis pas du tout dans cet état-là, la musique va me permettre d'avoir ce que je veux un peu plus vite. Voilà. Ou l'inverse, si j'ai quelque chose de joyeux mais que je suis pas trop dans mon assiette, la musique va aider aussi. Pareil pour la colère, etc. etc.
Tu écris beaucoup, je le sais, en plus de dessiner. Quand tu écris ou quand tu dessines, tu t'appuies toujours sur la musique. Il y a toujours un bruit de fond chez toi.
Non. Le silence est très bien aussi. Le silence est parfois nécessaire. Et la nuit, par exemple, parce que si je dessine, c'est plutôt la journée. Si j'écris, c'est plutôt la nuit. Si j'écris la nuit, je peux être dans le silence complet. Là, c'est pas un problème.
Alors la prochaine musique, c'est moi qui l'ai choisie pour le coup, parce que ça m'inspire franchement toute cette ambiance heroic fantasy. C'est la musique d'un jeu qui s'appelle Kerim, qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore, je pense, auprès de certains joueurs en ligne, et où il y a cette atmosphère où on parle, où il y a des liens avec la mythologie, mais surtout nordique, puisque sont mentionnés le Malala, le Valhalla, la brume qui aspire les âmes, il y a des dragons, et donc j'ai choisi pour nous Dragonborn Comes, repris a cappella par un groupe qui s'appelle The Voice Play, et que j'aime beaucoup et que je cite assez souvent.
Wielding power of the ancient Nordars.
Believe the dragonborn comes.
It's an end to the evil of all Skyrim's foes.
Beware, beware the dragon.
Oh,
L'atmosphère de la vidéo est vraiment basée sur les vêtements inspiration médiévale. On est vraiment dans les jeux de vidéo où il y a ces ambiances particulières très inspirées et de la nature nordique et des vieilles maisons au Moyen-Âge, etc. Et toi, tu me faisais une réflexion sur ce que t'inspirait la musique. Hein.
Celle-ci, là, oui. Oui, je trouve qu'elle elle fait très mystique, un peu invocation, et, avec les chants très gutturaux là, qu'on a aussi en Asie, hein, d'ailleurs. Et elle met tout de suite une ambiance. Ouais. Ouais.
Donc, pour continuer sur tout ce qui est heroic fantasy, qu'on retrouve donc... aussi bien tout ce qui est héroïque comme ça, on le retrouve dans les jeux vidéo, on le retrouve dans le monde littéraire, dans la BD, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux. Tu m'as souvent évoqué le rapport avec les différentes mythologies, les différentes traditions. Qu'est-ce que tu peux nous en raconter ?
Alors, sur les mythologies, bon, en fait, il y a beaucoup de points communs entre les mythologies différentes des différentes parties du monde. Ce qui fait qu'il y a il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'il y avait un tronc commun au départ. Ensuite, il y a on y reviendra, je crois, un peu plus tard, mais on a les contes qu'on connaît comme Blanche-Neige, comme Cendrillon, qui sont aussi de la même racine que la mythologie. On retrouve des histoires très similaires. Et par exemple, si on prend l'exemple de Tolkien, quand il a créé Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et tout ça, Tolkien c'était un littéraire, donc il étudiait les langues anciennes, il avait créé une langue pour son univers d'ailleurs, il a créé tout un univers cohérent comme ça, mais il a repris les mythologies nordiques à sa façon, et donc c'est... Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont très très inspirés de la mythologie nordique. Comme ensuite Tolkien a énormément d'influence, beaucoup de gens ont repris l'heroic fantasy d'après lui, donc ça reste un dérivé de la mythologie nordique. Et on a d'autres courants comme la version de Robert Howard, qui est le créateur de Conan, et d'autres, hein, et de Red Sonja et de Solomon Kane et tout ça, qui, lui, paradoxalement, s'inspire un peu plus de l'histoire, même s'il y met beaucoup de fantastique. Il y a une inspiration mythologique, hein, qui est là, évidemment, mais il prend l'histoire qu'il va reprendre à sa manière. Il va reprendre des légendes comme l'Atlantide, qu'il va aussi reprendre à sa manière. Et il va en même temps s'inspirer de Lovecraft. Lovecraft, qui était un ami à lui, il correspondait par courrier. Lovecraft qui, lui, par contre, s'inspirait de traditions ésotériques et de choses qu'on va retrouver aussi chez Aleister Crowley, qui était connu pour être un magicien et quelqu'un d'assez controversé, d'ailleurs. Mais Lovecraft s'inspirait de ça. Donc on
Mais petite question, pour ceux qui, ouais. qui ne savent pas qui est Lovecraft, ouais. pardon.
Lovecraft, c'est un écrivain qui est un des grands classiques de la littérature de fantastique avec, alors je ne sais pas vraiment science-fiction, mais c'est beaucoup de créatures mystérieuses et anciennes. Et on est presque dans l'épouvante, c'est quelque chose qui peut être très sombre par moment. Et pareil, il a eu une grosse influence sur toute la littérature fantastique.
Qu'est-ce qu'il a écrit de particulièrement connu ?
Oh, il y a le mythe de Cthulhu qui est très connu. Après, il y en a beaucoup d'autres. Je suis moins spécialiste de Lovecraft, d'ailleurs, que de Howard en comparaison. Mais Cthulhu est le plus connu. Personnage dont, d'ailleurs, je crois qu'on ne sait pas tellement comment faut le prononcer. Mais il parle très souvent de vieilles créatures, de vieilles divinités enfouies qui reviennent, ou de monstres oubliés qui reviennent à la vie, etc. Et donc, je sais qu'il a influencé Howard pour ce genre de choses. Pour la plupart des créatures et des monstres que Conan va affronter, il avait admis qu'il s'inspirait de Lovecraft.
Conan, qui est particulièrement connu parce qu'il y a eu des films faits sur lui, mais aussi il y a des BD qui sont intéressantes à découvrir, et effectivement l'œuvre d'origine, les romans.
Ouais. Au départ, ce sont des nouvelles qui sortaient en magazine. Ça date des années 30. Hein. Comme Le Seigneur des Anneaux, c'est à peu près sorti à la même période. Enfin, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Conan, c'est à peu près la même période. Sauf que on a Tolkien, qui est un littéraire, comme je disais, qui est vraiment un universitaire, et Howard, qui créait Conan. Howard était un boxeur, un escrimeur. Donc Conan est tout de suite plus orienté action, et il y a un dynamisme qui diffère de Tolkien, qui prend son temps et qui fait des trucs très détaillés avec un univers très cohérent, avec beaucoup de références sur les mythes. Et Howard, qui fait quelque chose qui a peut-être un moins de références au niveau initiation, symbolisme, mais qui a vraiment un dynamisme qui est impressionnant à lire, parce que ça se lit comme de la bande dessinée. Ensuite, c'est Marvel qui l'a adapté en BD, c'est là que ça l'a fait connaître encore plus. Et ensuite, il y a eu les deux films avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Et il y a eu un film en 2011 avec Jason Momoa, c'est l'acteur qui joue Aquaman dans les Justice League et tout ça, et qui a interprété Conan. Et puis, voilà, après, bon, il y a des jeux vidéo, il y a tout ça, hein, mais ça fait partie des deux plus grands courants d'Heroic Fantasy, hein, le courant Tolkien et le courant Howard, hein, en gros.
Ça a une influence sur ta création ?
Oh ben oui, moi j'ai grandi en regardant les films Conan avec Schwarzenegger, je les ai regardé beaucoup. Les musiques aussi, d'ailleurs, je les ai beaucoup écoutées, je les écoute encore pour dessiner, hein, elles sont excellentes. Et puis non, le personnage, oui, m'a influencé. Quand j'étais petit, je voulais vivre dans l'univers de Conan. Je voulais, même si c'est un peu dangereux, mais j'étais prêt à m'entraîner au cas où. Mais non, j'ai toujours bien aimé ce genre de choses-là. Et après, les autres sortes d'Heroic Fantasy que j'ai découvert après m'ont paru un peu fan en comparaison. Il a fallu que j'accepte de passer à autre chose. Et puis maintenant, il y a toute la période plus récente avec Game of Thrones que je connais très peu, donc j'en parlerai moins parce que je ne me suis pas encore penché dessus et c'est un gros morceau, donc on en parlera plus tard si tu veux bien, mais pas là.
Il n'y a pas de souci. Voilà. En attendant, je vous propose de découvrir Aurora, qui est une chanteuse, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois norvégienne. Et on est vraiment encore dans cette atmosphère très inspirée de toute la culture, pop culture, où vraiment, dans certaines de ces musiques, où il y a vraiment des clins d'œil au cinéma. Mais surtout, elle amène une atmosphère très particulière, où on sent vraiment ce monde très particulier de mythologie nordique dans tout ce qu'elle fait, et c'est absolument passionnant, et je vous propose de découvrir Runaway.
I was listening to the ocean, I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. La-di-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. Running far away, would I run off the world someday? But no, take me home.
Aurora, elle est comparée par ses fans à une fée, ou bien aussi à Freya, la déesse de l'amour dans la tradition nordique. Et justement, je voulais profiter de cette musique pour partir sur le sujet suivant, c'est-à-dire la magie dans les contes et la mythologie.
Oui, alors sur la magie, tiens, je rebondis très rapidement. Je disais que j'avais oublié de citer Donjons et Dragons dans les grands courants, parce que c'est un jeu de rôle qui a eu une énorme influence. Et très rapidement, le nain tel qu'il est représenté dans le Seigneur des Anneaux en armure et tout ça, c'est plus la version Donjons et Dragons que la version des romans de Tolkien, qui a plus le nain à capuchon façon Blanche-Neige que le nain en armure. Voilà, c'était bref. Une brève parenthèse, parce que j'ai jamais joué malheureusement à Donjons et Dragons, donc je peux pas en parler pendant des heures, mais je sais que ça fait partie des grosses influences qui ont aussi influencé des romans après, etc. Alors sur la magie, bien dans la mythologie, on a énormément de métamorphoses, on a des sorts qui sont jetés, on a de la magie, en fait on a de l'initiation, on a des choses qui n'arrivent pas en vrai, comme des voyages dans d'autres mondes, etc. Et on a ça dans les contes aussi, puisque les contes dérivent de la mythologie. Donc quand on a Cendrillon, on lit les versions les plus anciennes, on se rend compte que Cendrillon en fait est initié à la magie et est une sorte de sorcière, en quelque sorte. Quand on lit de la mythologie grecque, on voit que Zeus se transforme en animal, en être humain, en homme, en femme, etc. C'est encore de la magie. Et quand on lit de la mythologie nordique, on va trouver des histoires de loups-garous et pareil, d'épées magiques. Voilà. On a aussi toutes les histoires comme le talon d'Achille, comme Siegfried qui va terrasser le dragon pour utiliser son sang pour devenir invulnérable, qui va récupérer du dragon le home de la terreur. C'est donc, en quelque sorte, il devient un peu le dragon lui-même, quelque part. Une fois qu'il l'a terrassé, ça veut dire mis en terre, hein, le remettre en terre, au niveau de l'étymologie. Donc c'est pas forcément le tuer, mais il y a un côté de dompter et d'acquérir la force d'eux. C'est ce qu'on a dans plein de rituels, que ce soit en Afrique, en Asie, de s'approprier la force d'un animal ou bien d'un animal légendaire ou d'un animal réel. Et on avait beaucoup aussi d'animaux sacrés chez nous, dont les guerriers devaient s'approprier la force. Alors il y avait l'ours, qui était un des plus anciens, puisque ça remonte à la préhistoire, ça. Et on a le loup, qui est un petit peu plus récent. Beaucoup de légendes ou de traditions autour du loup sont dérivées des traditions de l'ours au départ. Alors l'ours, parce que c'est l'animal le plus fort en Europe au niveau des animaux terrestres, c'est celui qui peut dompter tout le reste, et donc qui était considéré comme le roi des animaux avant que les Européens, en allant en Afrique, découvrent le lion et lui mettent ce symbole solaire avec la crinière et tout ça. Mais l'ours, au départ, était le roi des animaux, donc on a des références à l'ours dans beaucoup de noms propres et de mots qui sont liés au roi, comme le baron, qui vient de la même racine que bear en anglais, comme la ville de Berlin, qui a pour symbole un ours, et c'est aussi le bear du bear anglais, comme Bern en Suisse, comme plein de mots comme ça. Et du côté celte, c'est plus tous les mots en art ou arc, comme l'Arctique, c'est l'endroit où il y a des ours, l'Antarctique, c'est l'endroit où il n'y en a pas. L'île d'Ars, chez les Bretons, c'est un dérivé du art, et le prénom Arthur, ça vient de l'ours, le roi Arthur, etc. Donc on a cette magie d'acquérir la force de l'animal. On retrouve ça dans le roman de Renard, par exemple. Le roi, qui est le lion dans le roman de Renard, il est malade. Pour être guéri, on lui propose d'acquérir la peau du loup. Donc évidemment, le loup n'a pas trop... C'est pas un projet qu'il branche de trop, tu vois. Mais en fait, là, il y a un vieux rituel de lycanthropie qui est repris de manière un peu enfantine, quoi. Mais ça passe inaperçu, mais c'est quand même un peu ça. D'avoir la peau de l'animal. Et on voyait ça même sur des soldats romains. Il y a des reconstitutions où les soldats romains ont des peaux d'animaux sur eux. Donc, il y a ce genre de magie-là. Il y a toute la magie qui est liée à l'héritage des ancêtres, et y compris à tout ce qui est réincarnation, puisque les anciens Scandinaves... Qu'on appelle vulgairement des Vikings. En fait, les Vikings, c'est ceux qui participaient au raid, sinon c'est des Scandinaves, quoi. Et les Celtes ou les Gaulois, comme on veut, puisque c'est pareil, il n'y a aucun des deux mots qui est tout à fait juste entre Celtes et Gaulois. C'était plein de tribus qui avaient des noms différents, mais ce sont des peuples qui croyaient à la réincarnation. Et il y avait cette idée d'hériter des qualités des ancêtres.
Tu m'avais parlé il y a quelque temps du conte donc de Cendrillon. Contrairement à ce que nous on croit, très influencé par Walt Disney, on pense que c'est la gentille petite marraine qui est venue lui donner des pouvoirs. Mais tu m'as parlé d'un arbre, en fait, et il y a quelque chose de la magie avec ça.
Alors parce que dans certaines versions, parce que les contes ont différentes versions et ils ont y compris des versions régionales. Je ne sais plus s'il y en a une typique du Loir-et-Cher, mais il y a toute une série de livres qui sont très sympas. C'est les éditions CPE, j'ai vérifié ça, qui écrivent les versions locales des contes. Donc il y a les versions de Touraine, il y a les versions de Bretagne, etc. Et dans une des versions de Cendrillon, elle demande une branche d'arbre en cadeau. Elle demande que son père lui ramène une branche d'arbre en cadeau, qu'elle va planter. Ça va devenir un noisetier. Et qu'elle va planter sur la tombe de sa mère. Donc quand elle va se recueillir sur l'arbre, elle va se recueillir sur la tombe de sa mère. Et en fait, on comprend plus ou moins qu'elle va quelque part voyager dans le monde des morts. Et donc, là, c'est de là que lui tombent les beaux vêtements, les chaussures de verre ou les chaussures en or, selon les versions, qui vont lui donner des capacités, des pouvoirs. Elle a une sorte d'initiation. Et quand elle veut échapper au prince, elle va grimper comme un écureuil. Hein, c'est expliqué comme ça. Elle grimpe aux arbres comme un écureuil. Et donc... Elle a aussi des capacités d'un animal comme ça, d'un seul coup, c'est pas Spider-Man, mais pas loin. Elle peut grimper très facilement aux arbres et tout ça. Et donc c'est pareil, tout un rituel qui après, selon les versions, va être un peu modifié, selon les conteurs ou les conteuses, parce que c'était beaucoup les femmes qui transmettaient les histoires à l'oral. Et donc, dans les différentes versions, voilà, la magie est prendre différentes formes, mais elle est quand même là à chaque fois. Et donc, sur Cendrillon, oui, je pense qu'il y a une notion de voyage dans le monde des morts, du fait d'être initié par sa mère, ou en tout cas d'acquérir les qualités que sa mère devait avoir, etc.
Alors, pour changer de thème, tu nous as proposé de réécouter du Marilyn Manson, mais là, on va changer, on va partir sur The Long Hard Road Out of Hell.
Oui, qui est d'ailleurs sur la bande originale du film Spawn, qui était une BD, un comics de Todd McFarlane, qui était connu pour Spider-Man et pour avoir créé Venom. Et il a créé Spawn après avec sa maison d'édition à lui. Et The Long Hard Road Out of Hell est sur le film Spawn, c'est vrai.
Eh bien, nous allons l'écouter.
No.
Puisque je disais que Cendrillon est initié dans les contes, alors on a plusieurs exemples, mais en fait, ça représente toujours un parcours spirituel, que ce soit chez Blanche-Neige ou autre. Hein. Alors, Varg Vikernes en parle très bien dans ses livres sur la mythologie, sorcellerie et religion dans l'ancienne Scandinavie, par exemple, où il parle très bien de ce genre de choses. Si on prend l'exemple du dragon, par exemple, puisqu'on parlait des dragons dans une des chansons tout à l'heure, l'étymologie du mot dragon, ça veut dire le clairvoyant. C'est un mot grec, ça veut dire le clairvoyant. Et on a beaucoup de légendes avec le dragon qui est aveugle. Alors, ou du moins, l'œil du dragon a une certaine valeur. Si on prend, par exemple, chez les Japonais, Senseiya, le chevalier du dragon, Shiryu, perd la vue très souvent. Et en même temps, c'est lui qui a la connaissance, et quand il perd la vue, il voit ce qui est invisible. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Ça, c'est, on va dire, le côté japonais. Prenons le côté occidental. Dans beaucoup de légendes occidentales, le dragon garde un trésor. Il est sous la montagne, il garde un trésor. Alors on a ça dans la mythologie nordique avec Siegfried, on a ça dans Tolkien avec le Hobbit. Et le trésor, c'est aussi une spiritualité à découvrir. Hein. C'est souvent une métaphore de ça. Et même chose en Asie, le dragon garde souvent des trésors. En Dragon Ball, il faut réunir les 7 Dragon Ball pour invoquer le dragon, réaliser son vœu, etc. Dans la légende chinoise qui a inspiré Dragon Ball, la légende du roi singe et ce texte qui s'appelle La pérégrination vers l'ouest, on a aussi des dragons qui gardent des trésors que ce nouveau Kong, qu'on appelle Son Goku, va aller voir. Il va aller voir les dragons pour récupérer leurs trésors. C'est quelque chose qu'on a en Asie et en Europe.
On pourrait parler encore très longtemps d'initiation, et pourtant, je vous propose de passer au morceau suivant de Pascal Pinon qui s'appelle One Thing et qui nous permettra d'aborder le dernier sujet de notre fil rouge qui s'appelle l'écorce rouge.
It's never sunny, but with my head tied to my
Nous avions évoqué le fait que tu es auteur de BD, et donc tu as écrit une BD qui s'appelle L'écorce rouge, et où justement on retrouve tous ces mondes mythologiques, oncles, l'influence musicale, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors d'abord sur la musique qui vient de passer, sur Pascal Pinon, c'est son deux sœurs islandaises. C'est une des musiques qui me permet de bien visualiser les scènes avec l'héroïne, avec Freya, qui me met dans une ambiance de certaine douceur un peu féminine, qui fait que j'arrive à bien la dessiner, si tu veux, dans ce genre d'ambiance-là.
Freya, c'est la déesse de l'amour.
Ah, en partie.
Et y a une partie de magie dans cette Freya-là aussi, ou pas ?
Oui, alors d'ailleurs, Freya, dans la mythologie, a été initiée à la magie, d'ailleurs. Et Odin qui a été initié à la magie. D'ailleurs, à certaines magies qui sont à l'époque considérées, on ne sait pas trop pourquoi, mais à l'époque considérées comme dégradantes pour les hommes et pas pour les femmes. Et Freya a été initiée aussi. Elle est une des rares à pouvoir voyager dans le monde des morts, puisque pour voyager dans le monde des morts, donc à Halloween, il faut soit ressembler à Odin, ou ressembler à un mort, naturellement, ou ressembler à Freya. D'où des tas de traditions là-dessus, avec des costumes et tout ça. Je détaille pas trop non plus, mais pour qu'on fasse pas trop de digressions. Mais du coup, oui, chez Freya, il y a de la magie. Elle est aussi la première Valkyrie, donc il y a un côté combattante chez elle aussi. Et elle reçoit aussi une partie des morts, une partie des guerriers tombés au combat. Par rapport au personnage, alors le personnage de ma BD, au départ, c'est une jeune femme normale, une paysanne qui n'a pas de pouvoir particulier. Maintenant, les choses vont évoluer, mais très doucement. C'est-à-dire que dans le tome que je viens de terminer, on ne voit pas encore cette évolution-là. Mais ça va très doucement, ça arrive.
Tu nous as parlé des animaux tout à l'heure, et dans l'écorce rouge, je crois, il me semble, parce que je n'ai pas lu la BD encore en entier, et j'ai bien hâte, hein, que le loup a une place principale.
Oui, alors il y a le loup, oui, parce qu'au départ, je voulais faire une histoire sur les loups-garous, mais j'avais envie que les loups-garous soient les héros et pas les méchants. Et en cherchant sur les origines des légendes de loup-garou, c'est là que je suis tombé dans les choses les plus anciennes, c'était la mythologie nordique ou la mythologie grecque. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à chercher, à étudier sur ces mythologies-là. C'est à partir de là que j'ai vraiment cherché en profondeur. Donc il y a le loup, effectivement, puisque c'était aussi un symbole guerrier, donc pour pareil, même chose que tout à l'heure, hein, ce que je disais, d'acquérir la force de l'animal. Il y a un lien avec l'arbre aussi, d'où le nom l'écorce rouge. Je parlais tout à l'heure de Cendrillon, hein, où elle plante son arbre. Les racines de l'arbre vont très profondément dans la terre, de la même manière que les branches vont s'élever dans le ciel. Donc l'arbre fait le lien entre ciel et terre. Donc symboliquement, il fait le lien entre le monde des humains, le monde des dieux, le monde des morts. Et donc à travers l'arbre, dans les mythes nordiques, on a l'arbre Yggdrasil qui permet de voyager dans les différents mondes. Et on a donc toute cette notion-là de verticalité. Et la spiritualité, en gros, c'est représenté par la verticalité, le fait de s'élever. Donc l'arbre à l'écorce rouge, c'est l'if, c'est un conifère qui est connu pour avoir un fruit rouge qui est un poison mortel. On peut manger une partie, mais faut bien choisir la partie qu'on va manger. Mmh. Et qui est un conifère, donc tout comme le sapin. On connaît tous le sapin de Noël, et le sapin de Noël a une vieille tradition très ancienne qui vient des pays froids et des mythes nordiques, et du dieu Heimdallr, que je ne prononce pas très bien, mais qu'on peut appeler Heimdall si on le prononce encore plus mal, et qui est une sorte d'ancêtre du Père Noël, si on veut. Voilà. On a tout ça dans la symbolique de l'arbre.
Écoute, Ambroise, je te remercie de m'avoir rejoint pour cette fin de nuit sur Studio Zef. Et pour nous quitter, nous allons écouter Communication de Cardigans, mm-hmm. que tu as donc choisi comme dernière musique.
Une autre musique qui me permet aussi de trouver des bonnes ambiances, oui, pareil. Ouais.
Merci.
Merci.
For 27 years I've been trying to believe and confide in different people I found. Some of them got closer than